Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous n'avons nul besoin d'édifier pour habiter le monde. Les sociétés nomades se caractérisent en ceci qu'elles réalisent le plus d'habitabilité avec le monde, avec le moins d'architecture. Cette architecture, elle intervient, affirme Ibn Khaldoun dans son Histoire universelle, avec, je cite, « la tendance naturelle à l'homme à penser à l'avenir ». Alors, l'art de bâtir est le premier des métiers sédentaires, car il se constitue comme, je cite encore, « la science de la construction des demeures et des maisons propres à servir d'abri ». Ça, c'est dans Ibn Khaldoun. Mais si l'abri primordial est le premier geste d'une humanité qui se met à distance des aléas de la nature, c'est de distance dont je vais parler aujourd'hui, y a-t-il un lieu propre à exercer le pouvoir? Nous avons évoqué, dès la première séance, cette évidence topographique du surplomb, nous obligeant à lever les yeux vers ce qui nous regarde, cet œil souverain dont il suffit en somme de postuler la présence pour ressentir l'autorité. Car le plus souvent, il n'y est pas ou il n'y est plus. Ou encore, il finira par y être à force d'en parler, à force de le craindre ou de le révérer. Que l'on songe par exemple à la plus fondamentale des manifestations d'exercice d'un pouvoir monumental. Monumental au sens où il s'exerce en même temps sur l'espace qu'il occupe et sur le temps qu'il aménage, le temps de la mémoire, puisque ce que l'on appelle une présence, c'est une manière de s'emparer du passé pour prendre date avec l'avenir. Un monument, donc, le monumentum fondamental, disons archaïque, au sens où il est à la fois très ancien et très virulent, encore pleinement actif aujourd'hui, c'est le tombeau d'un puissant. Pierre dressée, tas de briques, il nous intime l'ordre de nous souvenir que nous vivons là à l'ombre d'un mort exceptionnel, plus grand, plus haut que nous. Voilà le premier lieu de pouvoir qui s'impose à nos vies, avant les pyramides de l'âge du bronze, avant même l'architecture mégalithique, disons le tumulus du néolithique. Sous ce nom latin d'ailleurs, tumulus, on désigne archéologiquement tout tertre artificiel s'élevant au-dessus d'une tombe, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa matérialité. On trouve d'ailleurs cette forme du tumulus presque universelle, en tout cas dans toutes les nombreuses civilisations de tous les continents. Or, comme l'a noté l'anthropologue britannique Tim Ingold dans son très beau livre traduit en 2017 aux éditions Dehors sous le titre « Faire, anthropologie, archéologie, art et architecture », le tumulus ne peut se ramener à l'intentionnalité de son édification. C'est d'ailleurs pourquoi il est archéologiquement si difficile de le dater, de le situer, de situer ses commencements dans le temps. C'est que tel qu'on le voit, tel qu'on le découvre aujourd'hui, il est fait et il se fait. Il, je cite Tim Ingold, il existe en s'entassant. Le tumulus n'est pas seulement le produit de la projection d'une forme humaine sur le monde, mais l'effet du monde sur cette forme, dans la durée et dans la diversité du vivant. Autrement dit, si l'on doit, et c'est ce que je tente de faire ici, penser la notion d'événement architectural en explorant l'effectivité des lieux de pouvoir, c'est au sens désormais classique d'un événement qui, selon l'expression célèbre de l'historien contemporanéiste Pierre Laborie, est ce qui advient de ce qui est déjà advenu. Cela ne veut pas seulement dire qu'un lieu de pouvoir est toujours en devenir, que son sens social se trame en situation selon les usages ou les mésusages qu'il suscite ou qu'il précipite. Non, cela signifie qu'on doit d'emblée penser le rapport entre le geste et l'édifice. Non pas nécessairement pour penser l'art de bâtir sur le modèle souverain d'un acte créateur qui se donne comme geste architectural, ça c'est cette figure sur laquelle nous reviendrons inévitablement, qui s'autorise d'une lecture héroïque de l'architecte albertien qui rehausse son autorité sur le monde en l'adossant à celle du prince qu'il sert et dont il traduit les désirs dans la pierre. On peut aussi s'intéresser à cette capacité de l'architecture à faire événement en accueillant ces manières d'habiter l'espace dont les gestes, au fond, la précèdent et la transforment. Pour penser ces gestes qui, antérieurement donc à l'édification de la maison, architecture l'espace, je m'appuie ici, et depuis le début en fait, sur l'œuvre inspirante du philosophe Benoît Goetz, et notamment deux livres parus chez Verdier, que je sollicite beaucoup dans ma tentative d'espacer le temps, c'est-à-dire plus simplement de penser la relation de pouvoir en termes d'espacement. Le premier est paru en 2001 et s'appelle « La dislocation, architecture et philosophie », et le deuxième, 10 ans plus tard, en 2011, « Théorie des maisons, l'habitation, la surprise ». Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de surprise. Et je lis dans ce dernier livre, « Théorie des maisons », la phrase suivante. « Habiter, c'est enchaîner position et geste, et cela, littéralement, sans fin. » Comprenons ici que le geste est un moyen sans fin, c'est-à-dire qu'il faut bien faire quelque chose pour y être, interminablement et sans, d'ailleurs, toujours y penser. Nous habitons un lieu, un milieu, quand notre manière d'être se forme à leur fréquentation, a écrit Jean-François Lyotard. Je m'assois, je me lève, je me couche, mon pied bute sur la marche d'un escalier, je lève le pied, je n'y pense même pas, je ne songe pas à tenter de calculer l'écart de la marche, j'imagine qu'elle est habituelle. Je ne peux pas vraiment dire donc que je fais les gestes appropriés. Non, je suis habitué. L'habitus est une manière de faire et puis je recommence. Pas besoin donc de me le dire, je le fais. On n'entend pas des voix quand on habite. On répond aux sollicitations de l'architecture qui s'impose à nous par cette violence douce de l'insinuation. Sa puissance donc est psychagogique, au sens où elle est toujours reçue dans l'inattention. Et donc on a nul besoin de contempler un lieu de pouvoir pour éprouver son pouvoir. Et même, c'est souvent l'inverse. C'est quand on n'y pense pas qu'il agit sur nous. Qui, par exemple, a déjà visité un château fort avec un guide touristique qui suggère, à chaque fois qu'on passe une porte un peu basse, de baisser la tête en disant, vous savez, ils étaient petits au Moyen-Âge. Non, non, ils n'étaient pas petits. Simplement, l'architecture nous fait faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire baisser la tête. Et d'une certaine manière, ça, c'est effectivement implicite dans, je dirais, le phrasé architectural d'une habitation qui s'impose à nous par sa seule fréquentation. Parfois, évidemment, ça peut être un peu plus explicite. Par exemple, si vous visitez le Puy du Fou, eh bien, dans la reconstitution de la salle du trône de François Ier, vous aurez un crieur qui vous intime l'ordre un peu plus explicite, le roi arrive, baissez le regard. Alors, si je veux, d'abord, il y a toujours des récalcitrants. Ce que Alain Damasio, dans Les Furtifs, appelle les anarchitectes, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à l'ordre urbain ou architectural. Et c'est toujours possible. C'est ça, et d'ailleurs, plus facile qu'on le pense, toujours. Car ce que je viens de dire ne vaut que pour les grandes chorégraphies du cérémonial. Visiter les jardins de Versailles, c'est suivre la voie OIE, OIX de Louis XIV, comme on l'a déjà vu, et comme j'y reviendrai à la fin de cette séance. Dans la plupart des cas, le geste architectural n'est qu'une proposition d'habitabilité, dit Benoît Goetz, qui sollicite les corps, les comportements et suggère ce qui pourrait ou devrait être fait. Au geste architectural, il est loisible de répondre ou non, et de la manière qui plaît. Voilà sans doute pourquoi Michel Foucault affirmait, dans l'entretien qu'il accorde à Paul Rabinoff en 1982 et qui sera plus tard dans les dits et écrits publiés sous le titre « Espace, savoir et pouvoir », il dit ceci « Après tout, l'architecture n'a pas de pouvoir sur moi ». Et au sens strict, c'est vrai, au point que nous pouvons, par nos attitudes et nos manières d'être, littéralement modifier les architectures que nous habitons. Walter Benjamin a écrit quelque part qu'il y a des hommes qui ont le don de transformer toute pièce où ils pénètrent. Et j'ai entendu la semaine dernière un ancien secrétaire d'État de François Mitterrand, encore énamouré ou feignant de l'être, déclarant qu'on savait qu'il était entré dans une pièce avant même de l'avoir vue. Alors je ne sais pas si c'est le cas de Donald Trump, mais en tout cas, nous avons vu ensemble qu'il y a, deux semaines, comment il tentait justement d'échapper au pouvoir des lieux en ne leur laissant pas le temps d'architecturer son propre comportement. Et ce que nous avons compris, en revanche, la semaine dernière, c'est que l'embellissement des lieux de pouvoir ne suffisait et ne suffira assurément pas à conduire les conduites de ceux qui, face à ce rempart d'une beauté enveloppante, se soumettent à cette dépendance honorable qu'on appelle l'admiration. N'accusons pas trop vite Léon Battista Alberti de naïveté, en dramatisant l'opposition entre idéal humaniste et lucidité machiavélienne. L'enjeu de la leçon de la semaine dernière consistait à esquisser le portrait intellectuel d'un humaniste qui se décrivait de manière fanfaronne et vantarde comme un acrobate de la culture renaissante dans sa vita, tout en confiant dans ses entretiens sur la tranquillité de l'âme ses doutes et ses tourments. De même, écrivait-il en même temps le Dere Edificatoria, qui entendait fonder la société politique sur une grammaire ordonnée des connotations idéologiques de l'art d'édifier, et le Mumus, cette fable politique de la défondation de son propre idéal. C'est donc dans l'ambivalence et dans l'instabilité de ce Quattrocento que j'avais alors proposé d'établir en somme le camp de base de nos pérégrinations, y cherchant moins le musée des belles choses accumulées que l'inventaire des dilemmes. Et notamment celui que je propose d'explorer aujourd'hui qui concerne l'exercice du pouvoir comme mise à distance. Tout, là encore, est affaire de gestes, de position et d'écart. Revenons un instant à notre point de départ. Ce que j'ai dit au sujet de Ibn Khaldoun, je pourrais tout aussi bien le dire avec Alberti, qui exprime dans son Dere Edificatoria une anthropologie de l'espace où les hommes bâtissent, non pour se protéger de la fureur initiale de leurs ennemis ou d'une violence originelle, on n'est pas chez Hobbes, mais pour développer ce que Pierre Caille, traducteur et commentateur d'Alberti, mais aussi philosophe de l'acte de durée, appelle un art des liens ou une pratique des attachements. Il faut pour cela trouver la bonne distance, le bon espacement entre les individus et que ceux qui exercent le pouvoir en particulier fassent avec l'espace ce qu'ils font avec le temps, en différant sans sursoir, en s'écartant sans s'éloigner. C'est un problème grec. Jean-Pierre Vernant a montré comment l'espace politique de la cité grecque était fondé sur le rapport d'équidistance des différentes parties de la ville à l'agora. Là est l'isonomie constitutive du lien démocratique où, je cite Vernant, « pour qu'il soit impossible de s'approprier le pouvoir, on le dépose au centre ». Cette phrase, on la dépose là, au centre, et on va la retrouver. Plus globalement d'ailleurs, dès lors que l'on comprend que le politique commence là où s'arrête la mise à mort. Cette question de l'espacement doit être comprise comme une mise en puissance de la force que l'on n'exercera pas. Commentant dans un livre magnifique qui s'appelle Périclès et Verdi, la pensée de François Châtelet, Gilles Deleuze appelle cela la politesse des Grecs, à savoir, je le cite, un art d'instaurer de justes distances entre les hommes, non pas hiérarchique, mais géométrique, c'est pour ça qu'il est grec, qui consiste, je cite encore, à n'être ni trop près ni trop loin pour éviter de donner ou de recevoir des coups. Dans la vie quotidienne, cette raison pratique des écarts sociaux se nomme la proxémie. Elle a été théorisée par l'anthropologue américain Edward Hall en 1963, qui distinguait par cercle concentrique la distance intime, moins de 40 cm, personnelle, jusqu'à 1,25 m, sociale, jusqu'à 3,50 m, vous, et publique, au-delà de 3,50 m. Alors évidemment, le rayon de ces sphères s'adapte en fonction de la culture. Au Japon, les distances sont plus importantes. Des lieux, si vous êtes dans un ascenseur ou dans un métro, il y a une prostration, vous baissez les yeux, le portable sert à ça, et vous bougez moins, parce que vous savez que vous pouvez recevoir ou donner des coups, en fonction du degré de familiarité, en fonction de certains traits psychologiques. Les troubles du comportement, notamment, altèrent la perception proxémique. C'est même assez fondamental dans certains troubles du comportement. Dans le cas des relations de pouvoir, c'est évidemment le protocole qui règle la juste distance. Bon, on va commencer à regarder des images. Alors là, par exemple, je pense qu'on est un peu trop loin. Lorsque Vladimir Poutine reçoit Emmanuel Macron au Kremlin le 7 février 2022, on peut estimer qu'ils sont un peu loin l'un de l'autre. Cette table ovale, a-t-on appris depuis, a été installée par Boris Yeltsin en 1995. Elle fait 6 mètres de long, 2,60 mètres dans sa plus grande largeur, plus que là. Mais moins que dans la salle d'assemblée, j'ai vérifié, et elle est faite d'une seule feuille de hêtre. Un tel espacement, et c'est ça évidemment, à mon avis, la productivité intellectuelle de cette notion d'espacement, quand il est trop important, il est comblé par l'imaginaire. Par exemple, 2 jours plus tard, voilà ce qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux russes. Ce genre de photographie, inévitablement, produit de nombreux détournements, illustrant d'ailleurs une tendance de fond que l'on peut appeler la mémification du politique. On verra d'ailleurs, au passage, qui n'est pas inintéressant, combien il est difficile de placer, quelles que soient les intentions, des gens sur une grande table pour qu'on ne finisse pas par y voir la scène. Même quand elle n'est pas là. Tant il est vrai que la grande table appelle dans notre culture le souvenir du dernier repas du Christ. Alors comment interpréter cette scène d'intimidation? D'abord en rappelant que le temps, qu'en temps épidémique, ce qui protège le pouvoir n'est pas la beauté mais la distance. Et on dit que Vladimir Poutine avait alors peur du Covid. Il aurait donc pratiqué, mais à une grande échelle, ce que l'on appelait justement la distanciation sociale. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui, puisque je parlais de vie quotidienne, dans nos villes, des affichettes, des autocollants, nos bâtiments portent encore aujourd'hui quelques stigmates de cette volonté sanitaire de nous maintenir à bonne distance les uns des autres, même si en fait la marque la plus profonde de cette période a été laissée dans le langage, notamment dans la novlangue de l'administration universitaire, puisque nous distinguons maintenant, pour parler d'une d'une réunion, par exemple, entre le présentiel et le distanciel. Mais quand on y songe un peu, comment avons-nous pu consentir à une telle chimère ? Présentiel, distanciel, c'est une fausse opposition. Ce qui s'oppose à la présence n'est pas la distance, mais l'absence. Ce qui s'oppose à la distance n'est pas la présence, mais la proximité. En mettant en regard ces deux termes, on décide de ne pas voir les effets de leur antonyme véritable, l'absence et la proximité. On peut être effectivement proche et absent les uns pour les autres. Ce qui s'absente aujourd'hui est l'idée du proche, provoquant une situation politique abstraite. On parle de quoi au juste, et donc toujours possiblement dangereuse. Dès lors qu'on a posé une fausse symétrie entre présence et distance, prétendre les hybrider, par exemple on va faire une réunion en hybride, revient à créer une chimère, et cela aussi, évidemment, c'est très médiéval. Parce que vous l'avez deviné, je pense, je vais essayer de médiévaliser cette scène. Et d'ailleurs, suivons par exemple le motif de cette table du pouvoir. Il serait aisé de montrer comment l'ordonnancement des manières de table fait du banquet médiéval une grande scène du pouvoir, dans laquelle le prince impose une présence dosée, que j'appelle volontiers d'espacement, au sens où il établit un intervalle entre la mêlée du trop près et la transcendance du trop loin. Et le modèle, bien sûr qu'il est christique, donc si on veut bien aller voir en arrière et désigner directement la fresque que Léonard a peint, qui n'est pas techniquement une fresque, dans le réfectoire du couvent dominicain milanais de Santa Maria delle Grazie, sur le dernier repas du Christ, il est évident que le dispositif visuel de cette peinture murale dans un réfectoire, d'ailleurs ne trouve pleinement son sens, comme l'a montré Léo Steinberg, que si on admet que le point focal de la composition, qui est au sens propre dans la main du Christ, dans la main gauche du Christ, et bien que ce point focal, si on le prolonge vers vous, devant moi, eh bien, il va taper l'oculus de la tribune que Giovanni Solari a construit pour le duc de Milan, Ludovic le Mort, et où son mausolée sera installé en 1498. Donc, c'est une sorte de rayon qui vient promettre la résurrection au prince qui est dans son monument, au sens propre. Mais ce qui compte ici, c'est l'efficience de la gestualité christique. Exactement comme sur un tympan roman, il se situe dans l'intervalle exact entre la gesticulation et la prostration. Comme l'a montré Jean-Claude Schmitt dans La raison des gestes, le geste diabolique dans l'art médiéval, c'est soit effectivement la prostration, soit la gesticulation. Et le geste idéal, divin, c'est celui qui est à la fois ample, précis, et juste. Et là, c'est le cas, c'est la juste distance, le Christ écarte la houle des corps et le paysage derrière lui vient creuser en profondeur cette manière d'espacer le temps. Parce que ce qui se passe là, c'est quand même pas rien, c'est le dernier repas du Christ, donc c'est une manière d'espacer le temps. Et évidemment, je pense que ce modèle, il est, en tout cas, dans les sociétés chrétiennes, disponibles pour toutes les formes de réinterprétation politique dans les lieux de pouvoir des princes laïcs. Vous vous souvenez évidemment peut-être de la scène des très riches heures du duc de Berry, où l'on retrouve, d'ailleurs, vous avez vu, une table faite pareillement d'un plateau porté par des tréteaux et couvert de nappes blanches. C'est que dans les palais, jusqu'au XVIIe siècle au moins, eh bien, il n'y a pas vraiment de salle à manger, ou quand il y en a, ce n'est pas nécessairement là où on dresse les tables, on les dresse le plus souvent dans les antichambres, et donc c'est le rituel qui agence l'espace, et non l'inverse. Reste que cette configuration hiérarchique, où là aussi il y a un geste dosé de proximité et de distance, que cette manifestation hiérarchique, elle est contrebalancée au Moyen-Âge par l'antimodèle de la table ronde, qui exprime l'idéal pacificateur et égalitaire, ou plus exactement pacificateur parce que égalitaire, de la royauté arthurienne. Elle apparaît dans la littérature avec le roman de Brut de Wass en 1155. C'est là que prenaient place, dans la plus parfaite égalité, les nobles seigneurs. Ils siégeaient autour de la table dans l'égalité la plus parfaite, et c'est dans la plus parfaite égalité, c'est dit trois fois en trois vers, qu'ils étaient servis. Aucun d'eux ne pouvait se vanter d'être mieux placé que son égal. Tous siégeaient aux places d'honneur, aucun ne se trouvait relégué à l'écart, et le texte dit « ne n'y y avait nul de forain », donc aucun n'était étranger à la scène. Par la suite, d'ailleurs, le motif est beaucoup plus souvent développé dans l'enluminure, comme ici, au XVe siècle, avec ce moment où la table ronde est aussi le symbole du monde. Je serai la table ronde qui tournoie comme le monde, lit-on dans Tristan et Iseult. On voit ici d'ailleurs que les chevaliers ont leur nom inscrit sur leur siège attitré, que le roi Arthur, évidemment, n'est que l'un parmi eux, et que le seul siège éminent, qui à ce moment-là du roman est donc occupé par Galahad, s'appelle le siège périlleux. C'est-à-dire que ce n'est pas une place d'honneur, c'est un point de bascule sur lequel se trouve le chevalier qui, à un moment donné, est le plus courageux du monde, mais qui, s'il s'y assoit alors qu'il n'a pas le cœur pur, sera englouti par la terre. Et là, Galahad vient de retrouver le Graal, et donc on a une Pentecôte laïque dans cette réinterprétation chevaleresque du repas de Pentecôte. Le Graal apparaît au milieu, dans le cœur vide du pouvoir, et représente cette échappée belle dont on parlait. Il ne peut y avoir de lieu de pouvoir que si nous qui les habitons, ou ceux qui les habitent, ont la tête ailleurs, sont en fait hissés par un idéal qui les dépasse et qui apparaît là dans une configuration de l'isonomie grecque créée par cette équidistance au centre vide du pouvoir. Et donc, si je vous relis la phrase de Jean-Pierre Vernant, puisque c'est par l'esprit, effectivement, qu'ils font advenir ce Graal qui n'existe nulle part ailleurs que dans leur espérance, je cite à nouveau Jean-Pierre Vernant, « Pour qu'il soit impossible de s'approprier le pouvoir, on le dépose au centre. » Et reconnaissez effectivement que nous y sommes. Avant de quitter cette image, regardez, si vous le voulez bien, jeter un coup d'œil sur l'intervalle des pilastres encastrés, car c'est désormais avec ce type géométrique de l'écart que je voudrais poursuivre mon raisonnement. Nous revoici au Kremlin, avec Vladimir Poutine, quelques jours après l'entrevue avec Emmanuel Macron, qui était venu, je le dis au passage, à Moscou pour tenter de faire baisser la pression sur l'Ukraine. Le nouveau tsar tient là encore toujours les dignitaires à distance, et le vide central de la grande salle des colonnades, mais qui m'intéresse aussi pour son vocabulaire néoclassique, n'est sans doute pas exactement le même que celui grec ou chevaleresque dont nous venons de parler. C'est ici qu'il convient sans doute de faire retour à la théorie architecturale telle qu'elle s'énonce dans les traités, notamment de Vitruve à Palladio. Comme l'a montré Roland Recht, avant de se constituer en art de l'espace, capable donc d'inventer des espaces, l'architecture s'est pensée comme l'art de régler les manières de loger dans ces espaces des formes, en mesurant le bon écart entre elles. Chez Vitruve, Cet écartement des éléments architecturants s'appelle le modulus, et cet intervalle est à la fois une proportion et une convenance. Et le premier lieu théorique, évidemment, on le sait, de cet espacement, c'est l'entrecolonnement qui détermine ce qu'on appelle un style, précisément. Traduisant Vitruve, Alberti articule cette notion d'intervalle à celle d'eurythmie, et l'espacement devient alors un rituel d'ordonnancement du visible pour créer la storia, justement. Dans une optique, on l'avait vu la semaine dernière, de persuasion. Donc, au fond, on doit calculer de telle manière que cet écart produise lisibilité, clarté, hiérarchie. Ensuite, les grands traités du XVIe siècle, comme ceux de Serlio, de Vignolles, systématisent ces normes, les mettent au service d'une rhétorique visuelle de la façade, notamment reposant sur une grammaire de l'intervalle, toujours un entrecolonnement serré produit de la gravité et davantage de solennité quand il s'élargit en diastyle. Mais ce sont les quattro libri de l'architettura qu'Andrea Palladio fait imprimer à Venise en 1570, qui réinterprète ces normes architecturales pour en faire une esthétique de l'expérience. Il y développe une analogie systématique entre ces espacements et les intervalles musicaux, composant ainsi la musicalité de l'édifice. Et ce, dans un sens qui est évidemment pythagoricien. Tout le vocabulaire architectural des lieux de pouvoir de la Renaissance, portiques princiers, colonnades d'apparat, escaliers monumentaux, développe donc l'espacement cérémoniel comme dispositif de visibilité et de domination. Donc, le pouvoir agit par la distance tout autant que par la forme, et l'on pourrait donc dire, en schématisant à l'extrême, que si la distance protège, l'intervalle expose et le vide centralise. Cette grammaire ne s'énonce pourtant qu'en situation, par les gestes et les parcours qui hiérarchisent les lieux de pouvoir. Le rituel d'approche des dirigeants soviétiques au Kremlin, après la mort de Staline, qui lui, au contraire, surjouait la proximité, qui est d'ailleurs tout aussi effrayante, mais d'une autre manière, il y a plein d'exemples d'un comique involontaire où les communistes français s'émerveillent quand ils vont voir Staline de sa simplicité, du fait qu'on peut aller le voir, qu'il travaille tout le temps, etc. Mais évidemment, dirigeants soviétiques ont retrouvé un rituel après Staline qu'on qualifie volontiers de byzantin, et les commentateurs avaient évoqué à ce moment-là le rituel byzantin auquel avait dû se plier le président de la République française. Alors, sans me risquer à statuer sur les continuités théologico-politiques des relations de pouvoir dans le monde orthodoxe, il est intéressant ici de relire le témoignage fameux de Liutprande de Crémone, évêque de Pavie, envoyé à Byzance par le marquis d'Ivrea à l'été 949 pour négocier une alliance matrimoniale, et le récit de son ambassade à Constantinople, donc, oscille entre l'émerveillement et l'exaspération, exaspération notamment pour les déplorables manières de table des Russes qui boivent trop, qui connaissent pas les nappes, qui mettent de l'oignon partout, qui noient leur nourriture d'une répugnante liqueur d'intestin de poisson. Mais là, en fait, Liutprande de Crémone ne comprend pas qu'il est l'hôte de l'empereur des Romains, et donc que cela suppose que l'on mange à l'antique, c'est-à-dire, effectivement, que l'on utilise du garum. Ce qu'il comprend très bien, en revanche, c'est le rôle du silence dans la mise à distance du corps de l'empereur nimbé d'une sacralité proprement effrayante. Voici donc la cour, nombreuse et immobile, et très loin, le basileus. Très loin, parce que la voix de l'autorité est le silence absolu, donc si loin que même s'il parlait, on ne pourrait pas l'entendre, que la très grande distance, précise Liutprande, rend nécessaire. C'est elle qui fait de cette vision une expérience sidérante qui produit une théophanie. Après m'être incliné très bas, trois fois, pour adorer l'empereur, je relevais la tête. Lui que j'avais vu avant assis à une distance modérée du sol, je l'aperçus tout à coup de loin, portant d'autres vêtements, assis presque au plafond de la salle. Je n'ai pas réussi à trouver comment cela s'est fait, sinon peut-être parce qu'il avait été tiré jusque-là par une machine comme celle par laquelle on soulève les arbres des presses. Il s'agit bien d'un automate. En effet, comme l'a montré Gilbert Dagron, qu'on appelle le trône de Salomon et qui rugit en disparaissant sous la coupole. Donc, le mode d'apparition de l'empereur, c'est la disparition. Il se dérobe au regard, se donne à voir comme inaccessible, trop loin pour être vu ou entendu. Comment produire cet effet architectural du rehaussement? Comment, par un bâtiment, on peut, pour ceux qui n'iront jamais voir à l'intérieur, produire cette émotion ou cette impression? Il est grand temps désormais de s'intéresser à l'édifice lui-même dans lequel nous avons placé notre intrigue initiale, le Kremlin. Le terme, on le sait, est générique. Il apparaît à Tver en 1317, dérivé du nom Krememevka, qui désigne les arbres dont on fait les palissades. Un Kremlin, c'est donc une fortification et par extension une forteresse rassemblant centre administratif et lieu de culte. Il en vient donc à signifier de manière globale et générique tout lieu de pouvoir dans l'ancienne Russie. Le Kremlin de Moscou, forteresse triangulaire dominant la Moscova, apparaît dans les sources en 1331. Notez cet horizon, les années 1330. Elle est alors emmurée d'une enceinte de pieux de chêne et transformée entre 1366 et 1368 en une enceinte de pierre blanche sous le règne de Dimitri Ier Donskoï, prince de Moscou, jusqu'à sa mort en 1389. À ce moment-là, la lutte avec les Mongols de la Horde d'Or est acharnée et ce n'est qu'au siècle suivant, sous le règne d'Ivan III, qu'il parvient à annexer, Ivan III parvient à annexer la province voisine de Novgorod, et puis surtout, en 1472, il épouse la nièce, Zoé Paléologue, la nièce du dernier empereur byzantin, Constantin XI, tué lors de la prise de Constantinople en 1453. Donc c'est à ce moment-là que Moscou peut revendiquer le titre de troisième Rome. L'essentiel, donc, de l'enveloppe monumentale du Kremlin, telle qu'on peut le voir aujourd'hui, est alors construit entre 1475 et 1509 par Ivan III, dans un but très précis, dans un moment, effectivement, de rehaussement du pouvoir, pour exprimer cette théophanie souveraine. Le Kremlin est désormais pour toute l'Europe monarchique, cette citadelle exprimant par cet effet massif de sens qui joue de la distance, de la hauteur, de la clôture, l'idéal d'un lieu de pouvoir autocratique, comme, en somme, la cité interdite de l'Occident. Napoléon, qui y résida en septembre-octobre 1812, y demeurant, en somme, prisonnier de sa victoire paradoxale, y fortifia son rêve d'un palais que ses architectes Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine avaient projeté sur sur la montagne de Chaillot, hein, en face du Champ de Mars, là où est aujourd'hui le Trocadéro. Ce palais du roi de Rome aurait eu tout le bois de Boulogne pour grand parc. Et le paradoxe, noté par Thierry Sarment dans sa récente Histoire des palais, est qu'après le désastre de la campagne de Russie, ce palais rêvé par Percier et Fontaine inspira à Moscou, chez les vainqueurs de Napoléon, l'embellissement du Kremlin en un style que l'historiographie russe désigne en français comme empire. Héritier de la Révolution française, mais orphelin de l'Ancien Régime, Napoléon Bonaparte avait hésité à loger dans les palais de l'ancienne monarchie, rêvant donc d'une nouvelle Rome. Ce fut d'ailleurs aussi le cas des bolcheviks en 1917, qui, après quelques hésitations et une tentation de la tabula rasa que pouvaient prôner les architectes constructivistes, s'écartèrent de la capitale tsariste Saint-Pétersbourg pour réinvestir le Kremlin de Moscou, qui ne fut soviétisé que par son décor. C'est l'œuvre d'Alexei Stoutchevs qui remplaça les aigles bicéphales des Romanov par l'étoile rouge lumineuse des tours, qui badigeonna les remparts d'une même teinte pourpre et qui construisit, entre 1924 et 1931, le mausolée de Lénine, qui, par ses masses emboîtées, s'adapte parfaitement aux proportions des vieilles fortifications du Kremlin. Ce qui domine donc la capitale soviétique, ce qui la domine encore, c'est la skyline de la citadelle du temps d'Ivan III et d'Andrei Roublev. Et nous voici donc ramenés à Moscou, capitale du XVe siècle, ou plutôt du Quattrocento, car ce sont des architectes italiens qui l'ont édifié. C'est en 1475 qu'Ivan III dépêche des envoyés en Italie pour y aller quérir des architectes. Eux seuls, apparemment, peuvent être les scénographes du rehaussement de son pouvoir et de son désir d'édifier à Moscou la troisième Rome. La chronique russe Sovskaya décrit la visite de l'ambassadeur Siméon Tobulzin à Venise dans l'atelier de l'architecte Ridolfo Fioravanti et il la décrit comme un conte. Tout est merveilleux dans cet apparat de beauté et d'ingéniosité qui vaut à Fioravanti son surnom d'Aristotèle. Aristotèle, enfin Aristote, donc on va l'appeler ainsi dans ses pérégrinations. C'est un ingénieur de la commune de Bologne, qui travailla pour Matthias Corvin, notamment en Hongrie, qui est courtisé à ce moment-là par Mehmet II. C'est au même moment que le sultan ottoman parvient à attirer Gentile Bellini à Constantinople. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui intéresse Mehmet II dans Fioravanti, c'est que c'est un des plus grands ingénieurs hydrauliciens du temps et qui a été surtout ça qui a occupé sa carrière en charge de la politique générale de fortification des Sforza à Milan. Tobulzin convainc Fioravanti, qui a 60 ans, de tenter l'aventure moscovite grâce à la promesse d'un énorme salaire, mais aussi d'un exploit à relever. À ce moment-là, un tremblement de terre a mis à bas la cathédrale en 1474 et on attend de lui qu'il la reconstruise en même temps qu'il édifie les nouvelles tours du Kremlin. Et donc, c'est toute cette aventure qu'il raconte à son protecteur, parce que son protecteur, c'est toujours le duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza. Par exemple, dans une lettre datée du 22 février 1476, au moment où il arrive, Aristotèle Fioravanti lui parle de ce qu'il découvre, le grand froid qu'il affronte, les gerfaux, les hermines qu'il va lui envoyer. Vous voyez la dame à l'hermine de Léonard de Vinci, c'est lui qui la reçoit à Milan. Et en fait, il se présente toujours comme l'homme des Sforza. Dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose digne d'honneur pour ta grande seigneurie, écrit-il. Aristotèle da Fioravanti reste à Milan jusqu'à sa mort en 1486. Il y est rejoint par d'autres architectes qui travaillent aux murailles, Pietro Antonio Solari, qui bâtit la Spascaia, la tour du Sauveur, Marco Friazzine, mais Friazzine ça veut dire italien, qui édifie le palais aux facettes, et Aloisio da Carcano, qui devient architecte général de Moscou et qui pense l'ensemble, qui achève l'enceinte avec ces différentes tours qui sont, alors quand on a un peu l'œil exercé à l'architecture lombarde, qui sont effectivement quasiment des pastiches, et en particulier la strada coperta, c'est-à-dire cette rampe qui permet de se barrer assez rapidement si jamais vous êtes assiégé, et qui a été, dont les prototypes sont notamment à Luc dans les années 1330, et qui sont la marque en fait de fabrique de l'architecture lombarde. D'ailleurs, au fond, en tout, c'est une quinzaine d'architectes et d'ingénieurs lombards qui, de 1475 à 1538, firent à Moscou cette Milan-sur-Moscova. Et c'était bien l'intention initiale exprimée par le grand prince dans le rapport du secrétaire de la chancellerie ducale Gualtiero Servullo à Ludovic le Mort le 19 novembre 1496 sur l'embauche d'Alezio da Carcano, parce que l'administration princière a toujours l'œil sur ces affaires de circulation d'ingénieurs entre cours princières. Eh bien, on lit, c'est le secrétaire du duc qui dit au duc, « Li fazzo uno castello alla similitudine di questo di Milano hein, ». Ils veulent faire un château pareil, qui ressemble celui de Milan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qui ressemble ? Évidemment qu'il y a un air de ressemblance, et en particulier, c'est ça, le Castello Sforzesco. D'accord ? Il y a évidemment un air de ressemblance qui nous pose le problème de savoir comment on peut penser historiquement cette similitudine sans s'abandonner à ce spontanéisme de l'analyse politique des formes architecturales qui consiste souvent, comme le disait Paul Levine, à juger une société sur sa mine. Si l'on ne veut pas se contenter de ce que Gérard Labrou appelle des effets massifs de sens. Ok, c'est massif, c'est imposant, c'est intimidant. Mais voyez comment, déjà, quand je dis c'est massif, c'est intimidant, je glisse insensiblement du monument à l'émotion qu'il est censé susciter. On peut évidemment faire confiance à la grammaire des styles des historiens de l'art. On relèvera alors les traits communs que les Solari, notamment, ont transportés de Milan à Moscou et qui signent cette architecture césarienne, notamment visible dans le couronnement des tours dites lombardes, faits de larges mâchicoulis appareillés, portés par des corbeaux de pierre surmontés de merlons rectangulaires droits qu'on appelle justement des créneaux guelfes et qui n'ont aucune tradition en Russie. Donc c'est vraiment une citation italienne. Si l'on parle à présent des portes dites monumentales, des portes-tours monumentales, là, qui est effectivement une reprise de celle de Philarète à Milan, la tour de la résurrection, eh bien, l'analyse à ce moment-là n'est pas seulement stylistique, elle doit prendre en compte la portée iconographique, le fait que c'est un support effectivement héraldique, et puis surtout la portée scénographique, hein, c'est-à-dire la capacité de l'architecture à susciter des images et parcours, des rituels. Parce que ce que le grand prince de Moscou attend des architectes lombards, c'est qu'ils apportent avec eux les modi di costruire, les modes de construction, ce qui veut dire aussi l'organisation économique et administrative du chantier. Le choix de la brique s'impose aussi d'ailleurs dans cette perspective. C'est un matériau politique qui, parce qu'il est modulaire, favorise la réglementation d'une économie de la construction libérée des normes corporatives des métiers, en particulier du métier des tailleurs de pierre, ou de le fait que c'est plus économique, c'est plus autoritaire. Voilà pourquoi la brique est, dès Sévère à la reine Victoria, le maître des empires. Construire en brique, c'est affirmer, sur un mode autoritaire, son pouvoir de bâtir. Ah mince, je suis désolé, je l'ai dit. Le pouvoir de bâtir, tel était le titre de ma thèse de doctorat, soutenue voici près de 30 ans, et dont il va bien falloir que je dise quelque chose, si je ne veux pas continuer à faire semblant de parler de Moscou quand je pense à Milan. Mais pour l'heure, revenons à ce que dit Servilio à Ludovic le Mort à propos du Kremlin d'Ivan III. Ils le font à la ressemblance di questo di Milano. qu'est-ce que bâtir le Castello Sforzesco au bord de la Moscova veut dire. C'est le moment, qu'est-ce que bâtir veut dire, de reprendre notre Dire Edificatoria de Leon Battista Alberti en se souvenant que ce que nous disions la semaine dernière, l'architecte humaniste n'a pas écrit en 1452 un traité de l'art de bâtir, il a composé une grammaire politique à partir des usages qui avaient cours dans l'Italie du Quattrocento, même si, comme pour toute grammaire, la description de l'usage vaut fixation de la norme. Au fond, ce que fait Alberti, ce qu'on avait vu la semaine dernière, dans son Dire Edificatoria, c'est qu'il dit, sur un mode bourdieusien, au prince qu'il emploie ce qu'il fait quand il fait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il le prévient des connotations architecturales de ses choix, au sens où il les donne à voir, il le prévient par avance, tout en le prévenant également des dénotations subreptices, au sens où il l'alerte sur les effets indésirables de ses choix. Tu veux ça, voilà ce que ça pourrait être, mais voilà ce que ça risque de devenir. Parce que voilà ce que les gens peuvent le comprendre. Or, qu'est-ce qu'ils comprennent au milieu des années, au milieu du XVe siècle ? Ben, ils comprennent, et ça c'est dit dans le livre 4 et 5 du Dire Edificatoria, que le bon prince, eh bien, il n'habite pas une forteresse. Il habite au cœur de la ville, et c'est pour ça que Alberti plaide pour l'inurbamento des palais princiers, qui est pas du tout pour ces roccas qui sont effectivement aux limites de la ville. Je cite Alberti, « La rocca est située de telle sorte qu'on ne peut pas dire si elle fait partie de la cité ou si elle est extérieure à elle. » Et ce doute-là, cette distance-là, elle crée une défiance. Et donc, à chaque régime, son architecture, on peut construire des rocs pour les tyrans. Il y a eu des tyrans au XIVe siècle. Normalement, ce sont des princes au XVe siècle. Et ce que dit Alberti, c'est qu'il vaut mieux ne pas construire ça. À Milan, comme à Mantoue, pourtant, des princes puissants adoptent un modèle de résidence princière que la théorie architecturale, mais aussi la littérature politique du Quattrocento, considère comme intempestif. Machiavel, on ne retient généralement sur cette question de Machiavel que le 20e chapitre du Prince, qui est consacré aux forteresses princières, et qui dit ceci. Et l'on peut examiner ce point ainsi. Le prince qui a le plus peur des peuples, plus peur des peuples que des étrangers, doit faire des forteresses. Mais celui qui a plus peur des étrangers que des peuples doit les laisser de côté. À la maison des Sforza, le château de Milan, que Francesco Sforza y édifia, a fait et fera la guerre plus qu'aucun autre désordre de cet état. Fera la guerre. C'est-à-dire que c'est un acte de guerre de construire ainsi à ce moment-là. Aussi la meilleure forteresse qui soit est-elle de n'être pas haïe par le peuple. Ok, donc ça c'est du Machiavel qui claque à la fin, et donc c'est ça qu'on retient. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il montre bien que la solitude est toujours un refuge illusoire pour un prince qui, au fond, loin de s'y protéger, s'expose au danger par le fait de créer de la défiance avec de la distance. Claude Lefort, commentateur de Machiavel, l'écrit ainsi: « La force imaginaire matérialisée dans la forteresse signale l'absence du sujet, non seulement l'exclusion du peuple de la puissance, mais le dénuement du prince sous l'appareil de coercition. » Comme souvent, c'est dans les discours sur la première décade de Tite-Live que Machiavel précise cela, développe à nouveau l'exemple de la reconstruction par Francesco Sforza du Castello Milanais. Je cite « La suite, a montré, parce que justement, c'est comme le tumulus qui se fait en s'entassant, c'est que, en fait, le château, en fait, sa véritable connotation, c'est en situation et dans la durée qu'elle se produit. La suite a montré que cette forteresse fut nuisible à ses successeurs et n'assura pas leur sécurité. Jugeant qu'ils pouvaient, grâce à elle, vivre en sécurité et outrager citoyens et sujets, offendere, les offenser, en fait, ils ne se refusèrent aucun genre de violence. Devenus odieux hors de toute mesure, ils perdirent l'état dès que l'ennemi les attaqua. Si le château des Sforza représente l'idéal type de la forteresse nuisible, c'est donc pour cela que dit Machiavel, c'est qu'elle suscite des comportements. Elle suscite des comportements de défiance du peuple, mais aussi d'agressivité rentrée de ce prince qui est proprement redouté dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il est prisonnier de la peur qu'il inspire. Mais là, la retombée du texte machiavélien, elle ne claque pas comme dans Le Prince, de sorte que la meilleure forteresse qui soit, c'est de n'être point haï par le peuple. Là, ça dit presque l'inverse. Sur toutes ces choses, on ne peut pas rendre de sentence déterminée si on n'en vient pas aux détails particulari de ces états. Voilà assurément une leçon d'histoire. Ne pas se fier aux sentences déterminées, mais se pencher sur les particulari, les détails. L'avais-je assez fait dans ce travail intitulé « Le pouvoir de bâtir », je vous livre l'intrigue générale, « Big Pictures ». Tout partait d'un texte qui... malheureusement pour moi, était prodigieusement intelligent, donc il m'a guidé, qui théorisait par avance la magnificence princière comme éthique de la défense. Il s'agit du De rebus gestis ab adson que le dominicain chroniqueur Galvano Fiamma a consacré au moment Adzone et Visconti, 1329-1339, dans lequel ce seigneur de Milan devient seigneur d'un État territorial. Donc c'est le moment d'affirmation et d'affermissement d'un État seigneurial qui devient, avec cette double inflexion, de la personnification d'un pouvoir qui devient dynastique et de l'extension de son ressort qui devient territorial. Donc Adzone et Visconti, pour justement asseoir son autorité sur un territoire, qui est désormais la Lombardie, eh bien, va justement, on est dans ces années 1330, comme à Moscou, va justement construire des roquets, c'est-à-dire des forteresses, pour verrouiller les cités sujettes qu'il avait, dont il vient de prendre le contrôle et pour les intimider. Mais dans sa capitale, à Milan, il fait évidemment presque tout l'inverse. Il applique cette formule de la magnificence. On bâtit pour se faire aimer de Dieu, d'où tout un beau programme de fondation d'église. On bâtit pour protéger le bien public, d'où son investissement monumental dans l'enceinte communale. Et on bâtit pour se faire craindre du peuple. Et c'est ici qu'intervient la transformation du broletto, c'est-à-dire de palais civique communal, en palais princier. Donc c'est une subversion par inversion douce des signes, mais il reste au cœur de la ville. Il reste effectivement à bonne distance, en fait, du passé communal de la ville, et c'est le bon modèle de l'inurbamento. Et Galvano Fiamma a cette phrase extraordinaire, qui donc anticipe Alberti. Il dit que, voilà, ce palais crée chez ceux qui le voyaient une stupéfaction admirative par sa beauté, une admiration stupéfaite et délicieuse, stupet et delectatio. Donc nous sommes bien effectivement dans cette mise en beauté albertienne de cet horizon des années 1330 qui décrit le socle de cette histoire. Voilà l'histoire schématisée à l'extrême. que je racontais à l'époque, c'est un drame de la déstabilisation de la formule de la magnificence. Acte 1, la cathédrale de Milan est refondée en 1385 au moment où le seigneur Gian Galeazzo Visconti devient duc de Milan, mais il ne parvient pas à faire du chantier de la cathédrale qui lui échappe le symbole du rehaussement monarchique de son autorité. Donc le dôme ne sera pas le mausolée princier des Visconti, mais le monument protecteur des Milanais et même le refuge des institutions communales. Acte 2, chassés du centre, donc, les Visconti se réfugient dans la Rocca di Porta Giovia, qui, de citadelle suburbaine, devient palais princier. Ils accusent l'écart, ils prennent leur distance avec le passé communal et suscitent la défiance de leurs sujets. L'humaniste des Chambriot, d'ailleurs, décrit Filippo Maria Visconti comme un prince redouté qui, au fond, devient fou dès la protection d'un enfermé dans son pouvoir. Cette Rocca intempestive se venge, architecturant des comportements tyranniques chez ce prince, ce qui produit sa perte. Acte 3. Lorsqu'il meurt en 1447, la société politique milanaise rétablit la commune sous le titre de République ambrosienne, ordonne la destruction de ce qui est devenu une bastille, la bastille de la tyrannie, et organise même cette destruction comme un cérémonial civique avec le voyage des pierres, les décombres en fait de la forteresse princière coupable d'avoir déserté la ville, le voyage au retour dans le centre civique pour reconstruire le palais et ainsi cicatriser une blessure historique. Acte 4. Lorsque l'oligarchie milanaise négocie avec le condottiere Francesco Sforza sa prise de pouvoir, celui-ci promet de ne jamais reconstruire le château. Il ne se sent pas tenu par sa promesse et le reconstruit plus grand, plus fort. C'est celui qu'on voit et c'est celui qui fait envie à Ivan III, ce château qui assume désormais pleinement la dimension princière de son pouvoir. Quand j'écrivais ma thèse, Jean-François Copé n'avait pas encore théorisé la droite décomplexée, mais c'est ça. C'est, on y va. On n'a peur de rien. Et c'est là, effectivement, qu'interviennent les ingénieurs milanais qui construisent plus tard le Kremlin. Acte 5, Francesco Sforza, conscient des connotations tyranniques de son geste de rupture, cherche à en euphémiser la violence. Il va chercher à Florence un architecte, Antonio Averlino, dit le Filarete, pour embellir l'extérieur de son château, l'art florentin servant ici à euphémiser la brutalité de la domination. Le Filarete tente, mais ne parvient pas à s'imposer sur le chantier lombard. Le Castello Sforzesco restera en deçà de cette mise en beauté albertienne du pouvoir. Urbanistiquement, la greffe ne prend pas. La distance est trop grande. Filarete se venge en écrivant le Trattato di Architettura, qui est une réécriture du De Re Edificatoria. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je lis le Filarete. Je raconte cette histoire. Rideau. Il y a deux semaines, bon, Antoine Lilti va jusqu'à 9, enfin, il fait 1h09, donc moi, je me dis 1h09, en fait, c'est bien. Il y a deux semaines, c'est long, 1h09, mais bon, il fait 1h09, alors moi aussi, je fais 1h09. Il y a deux semaines, en évoquant la visite des jardins de Louis XIV par lui-même, ça m'est revenu brutalement. Mon directeur de thèse, Pierre Toubert, qui a enseigné ici, qui est mort le 5 juin de l'année dernière, m'avait fait ce compliment. Hein, franchement, vous nous faites visiter Milan comme Louis XIV ses jardins. Et là, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, ce n'était pas un compliment. Il y a dans cette reconstruction, finalement, de l'espace milanais de manière impérieuse, en somme, obligeant à suivre un schéma, obligeant à suivre une voie, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, d'abord, c'est le fait que, On ne peut pas imposer au Moyen Âge une rhétorique de la représentation marinienne, celle de Louis Marin, celle dont nos dirigeants actuels se croient délivrés. Eh bien, elle n'avait pas cours encore au Moyen Âge. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il faut tenter, c'est ce que je tente de faire ici, une sémantique du signe architectural contemporaine de ce qu'on cherche à décrire. Ça ne va pas non plus parce que, d'une certaine manière, cela revient à faire ce que Marguerite Yourcenar disait du roman, c'est-à-dire c'était le portrait d'une voix qui dit « je », d'une voix qui dit « je veux », celle que vous avez entendue dans cette lettre de Aristotele Fioravanti da Bologne à son mécène, et qui est toujours effectivement le rapport entre le prince et l'architecte à distance, quand ils sont séparés, parce qu'évidemment quand ils sont ensemble, ce sont des ordres de bocca. Et donc tout cela demande sans doute d'être vu plus dans les détails. Alors, rassurez-vous, hein, c'est pas ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Je me suis déjà expliqué avec ma thèse dans un livre qui s'appelle « Faire profession d'historien ». Il y a un chapitre qui s'appelle « Comment je me suis disputé avec ma thèse ». Dans la réédition du pouvoir de bâtir, il y a une postface inédite qui décrit en fait tout ce qui a changé depuis, et dont un petit livre, « Les colonnes de San Lorenzo », est comme le double, le petit compagnon littéraire, et dans lequel vous trouverez aussi un autochrome, parce que tant qu'à faire de la pub, autant y aller carrément. À ce sujet, et j'en terminerai par là, parce qu'en fait, je n'ai pas imprimé jusqu'au bout mes notes, mais c'est plutôt mieux. À ce sujet-là, d'ailleurs, je ne pensais pas, puisque la semaine dernière, j'avais terminé en disant « bah tiens, à la fin du Momus, faut ranger sa chambre et on en retrouvera peut-être un livre qui va nous expliquer la vie ». Je ne pensais pas que ça serait ma thèse, mais j'ai cherché. Et alors, on la trouve à 44 balles chez AB Books. Oui. Mais alors, ce qui me choque un peu, c'est que c'est quand même un livre que j'avais envoyé à quelqu'un le 4 juin 98. Quelqu'un du CNRS et qui vient de le refourguer. Alors, si vous en avez aussi un à vendre, vendez le vôtre, cliquez ici. Merci et à la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.